Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien autour du jeu de société. Alors aujourd'hui encore, on va explorer ensemble un nouveau jeu qui pourrait bien rejoindre vos étagères. Dans cette première partie, place un jeu de cartes aussi simple en apparence qu'astucieux. L'objectif, poser une carte, mais surtout du bon côté. Un jeu avec pas mal d'interactions. Et comme chaque vendredi, c'est le moment que vous attendez tous. Notre invité de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Coupeau, venu nous parler d'un projet palpitant, un jeu qui vient de finir sa campagne sur Kickstarter, un jeu prometteur, une aventure ludique et sûrement de quoi faire vibrer votre fibre de joueur. Alors restez avec nous, on sort le jeu de cartes, ça commence tout de suite. Au menu donc aujourd'hui, c'est Verso, un nouveau jeu de cartes signé Alexis Allard et Joanne Dufour, illustré par Zongo pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Alors dans ce nouveau jeu de la gamme Biseau de Gigamic, il va falloir valider des cartes ou faire des carrés pour gagner un maximum de points. Au niveau matériel, nous avons des cartes de 3 couleurs différentes, allant de 1 à 6, plus une carte joker. Elles sont recto verso. Si le recto de la carte est vert, eh bien le verso sera bleu ou orange. Si le chiffre est 4 au recto, eh bien au verso, ça sera le 3 ou le 5, hein, c'est plus 1 ou moins 1. Sur chaque carte est indiqué le nombre de points de victoire que la carte vous fait gagner si elle est validée. Si sur le recto vous avez 1, sur le verso, il y aura 3. Vous avez aussi des jetons points de victoire, vous faites une pioche avec les cartes et c'est parti, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue? A votre tour, vous allez soit piocher une carte, soit valider une série de cartes, minimum à 2. Quand vous piochez une carte, vous pouvez la poser soit d'un côté, soit de l'autre. Mais dès que vous avez choisi de la retourner, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Pour la pose des cartes, il y a 3 lignes, les bleues, les vertes et les oranges. À tout moment, vous pouvez réorganiser vos cartes. Par contre, vous ne pouvez jamais avoir 2 cartes de même couleur et de même valeur. Si ça arrive, vous êtes obligé de défausser cette carte. L'autre action, c'est de valider une série de cartes pour obtenir des points de victoire. Vous pouvez valider une série de cartes à partir de 2 et uniquement si elles se suivent. J'ai par exemple 3, 4, 5 oranges, je peux valider ma série. Alors je l'annonce à tout le monde, je valide ma série 3, 4, 5 orange. En la validant, je dois défausser les 2 cartes de plus grande valeur. Dans mon exemple, c'est le 4 et le 5. Mais ce n'est pas tout. Vos deux voisins directs vont devoir retourner la carte de leur plus grande valeur de cette couleur. Et puis si en retournant la carte, celle-ci se trouve déjà dans leur jeu, il faudra la défausser. Si elle n'est pas dans le jeu, il faut la replacer dans la bonne ligne, tout simplement. C'est pour ça que vous pouvez agencer vos cartes. On marque des points en validant des séries, mais vous marquez aussi 7 points en faisant un carré de 3 par 3, soit 9 cartes, 3 verts, 3 oranges et 3 bleus. Il est donc probable, vous, qu'en validant une série, vous puissiez faire marquer 7 points à l'un de vos adversaires, car il a réussi à faire un carré grâce à vous, il vous remercie. La partie s'arrête dès que la pioche est vide. Tous les joueurs peuvent valider une dernière série, mais là, ça n'impactera pas les adversaires qui n'auront pas besoin de retourner de cartes. Celui qui a le plus de points l'emporte. Il existe aussi un mode solo que je vous laisserai découvrir. Alors, ce que j'en pense de Verso, c'est un jeu de cartes où il y aura ce petit côté Captain Flip, où quand on a décidé de retourner une carte, on ne peut plus revenir en arrière. Mais un jeu où il faut bien réfléchir avant de valider aussi une série. Un jeu de cartes avec de l'interaction, car forcément vos choix vont changer le jeu de vos voisins. Ça fonctionne très bien. Encore une belle idée du duo Allard à Dufour. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver mon invité de cette semaine.
C'est la pause déjeuner, il fait l'actualité. C'est ludique, et c'est notre invité.
C'est ludique, ça continue. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un éditeur passionné qui a réussi à faire un véritable carton sur Kickstarter avec son dernier jeu. Florent Coupeau de Nuts Publishing est mon invité. Bonjour Florent.
Bonjour.
Alors tout d'abord, félicitations pour le succès de ton jeu sur Kickstarter. Près de 33 000 euros, 760 contributeurs, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Rolling Seas? Et puis, on est, il me semble, sur un genre de Roll and Write.
Exactement. Ouais, bah déjà c'est vrai qu'on n'attendait pas autant de personnes, donc on est très content que le jeu ait réussi à trouver un public.
Ouais.
Ensuite, oui, c'est un roll and write, donc en fait on est à la tête d'un navire, chacun d'entre nous, on peut jouer entre 1 et 6 personnes.
D'accord.
Et ce navire, on va le faire naviguer sur une carte à travers des îles. Il y a dans la boîte de base, il devait y avoir 4 cartes et au final il y en aura 8 parce qu'on en a rajouté pendant la campagne.
D'accord.
Donc on lance des dés et ça nous indique d'abord la direction du vent et donc par où on va pouvoir passer. Et les actions donc sont de naviguer. La deuxième action c'est de explorer à terre et la troisième c'est de revenir au port et de raconter nos histoires parce que le but n'est pas d'éviter les monstres, les courants et tout, c'est de les rencontrer, d'avoir quelque chose à dire.
D'accord.
Si on ne revient pas au port, on ne marque pas de points parce personne ne sait ce qui nous est arrivé.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà.
Ah
et ouais, donc, l'avantage, c'est que c'est plus immersif que pas mal d'autres et surtout simultané. Tout le monde joue en même temps.
Okay.
Donc la partie dure très très rapidement. Et il y a des événements comme par exemple les embuscades où on va donner le plateau de jeu, son plateau de jeu à son voisin de droite ou de gauche.
Okay.
Et c'est lui qui va placer les embuscades.
Ah oui. Ouais.
Et il y a la même chose pour les rochers où c'est son adversaire ou ses adversaires qui vont placer les rochers à notre place. Et nous, on va récupérer le plateau et il va falloir faire avec.
Ah ouais, un petit peu comme dans Cartographers, il y avait eu où
on
pouvait mettre rajouter un monstre ou voilà. Ouais,
ouais.
Et donc du coup là, on est sur un roll and write plutôt initié.
Non, c'est assez famille. Hein.
D'accord.
Là, je reviens d'un festival et il y a une petite fille de 10 ans qui est arrivée le soir assez tard, le samedi. En jouant avec ses parents.
D'accord.
Qui le lendemain matin a voulu rejouer avec ses grands frères.
Ouais.
Donc voilà, je pense que facilement à 8-10 ans, il n'y a aucun problème pour jouer au jeu.
Donc le principe, on fait un voyage, on essaye de rencontrer des monstres pour après aller au port raconter ce qu'on a vu. Hein.
Exactement, à quelque chose près. Et voilà, il y a un petit peu d'interaction avec les joueurs aussi. On
n'est
pas tout seul à faire sur sa carte.
Ok. C'est un jeu qu'on retrouvera en boutique par la suite ?
Oui. Oui, c'est prévu. Donc le jeu est complètement terminé. On termine juste quelques bonus qu'on a proposés pendant la campagne.
D'accord.
Mais voilà, c'est des espèces de petits paquets de cartes qui apportent un peu de piment. C'est-à-dire que la première fois, ça fonctionne un peu comme un jeu Legacy. On ouvre son petit sachet et on découvre ce qu'il y a dedans. Mais en fait, c'est pas Legacy parce qu'on peut quand même réutiliser ces cartes dans la partie elle-même.
D'accord.
Il nous reste plus que ça à faire. Et donc, d'abord, on va livrer les backers, les contributeurs, probablement vers juillet, août de l'année prochaine.
D'accord.
Et,
ouais.
À la rentrée 2026, ce sera en boutique.
Alors, on sait que de plus en plus d'éditeurs font appel à Kickstarter pour financer leurs jeux. Pourquoi avoir choisi cette plateforme plutôt qu'un financement traditionnel pour ce type de jeu en particulier ?
Alors déjà, il faut savoir qu'on ne le fait pas tout le temps, on ne fait pas que du Kickstarter.
Ouais.
On fait du Kickstarter quand on estime que ça va être... Alors soit que ça va être un jeu cher,
ouais,
soit surtout pour nous, petits éditeurs français et bretons, c'est principalement pour la visibilité à l'international.
D'accord, ah oui, ok. Ah oui, c'est pour ça en premier, quoi, pour être vu au niveau international, parce que ce jeu, bien sûr, est en plusieurs langues.
Alors là, nous, on le fait en anglais et en français,
oui.
Mais rien que le fait d'avoir réussi à avoir 760 backers fait qu'on est approché par d'autres sociétés étrangères.
Ah, d'accord.
Et voilà. Alors en plus, on n'est pas tout jeune, donc on a aussi notre réseau de partenaires. Mais c'est vrai que ça donne une meilleure visibilité mondiale.
La communauté, c'est un point important sur Kickstarter. Comment tu as réussi à mobiliser cette communauté autour de ton jeu en particulier ? Tu avais déjà fait de la promo avant autour de ce jeu ?
Oui, c'est sûr qu'une chose à part faire, c'est lancer son projet. C'est vraiment en boutique de la même manière. C'est que oui, il faut en parler assez longtemps avant parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent maintenant. Voilà, faut montrer aux gens qu'est-ce qu'il a de plus ou qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à d'autres, ben là en l'occurrence à d'autres Roll'n'Ride.
Ouais. Ben, il n'y en a pas trop en ce moment de Roll'n'Ride, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où on en avait, on avait toutes les semaines.
C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, déjà on le montre en salon.
Ouais.
On en parle aussi à nos distributeurs, on en parle à nos partenaires, on invite des influenceurs à faire des critiques du jeu en amont.
D'accord.
Voilà, donc ça se joue beaucoup là-dessus. Et puis après, ben, pendant la campagne, on achète aussi des publicités sur différents médias.
D'accord.
Et on mobilise la communauté de nos autres jeux en se disant voilà, vous avez aimé. Je pense par exemple à Mini Rogue ou Subterrain, vous avez aimé ça.
Ouais.
C'est pas le même style de jeu.
Non,
voilà. Mmh. Essayez, regardez, et puis voilà, si ça vous plaît, voilà, c'est ici.
Ah, il y a aussi une notion forcément de risque quand on passe par Kickstarter. Comment t'as géré ce côté incertain et comment as-tu rassuré finalement tes soutiens pendant la campagne ?
Alors, je pense que déjà on a une image de qualité et de fiabilité.
Ouais.
À l'origine, donc ça aide. Après, je pense que pour rassurer, c'est de bien montrer que le jeu il est terminé. Moi, c'est vrai que
c'est important.
Je lance pas de jeu s'il est pas à 90% fini.
Ouais.
On laisse les 10% restants pour justement modifier tel ou tel petit point, parce que heureusement, on met nos règles en ligne, on met tout ce qu'on peut sur la campagne pour que les gens puissent le voir.
Mm-hmm.
Et on modifie en fonction de ce que les gens nous disent. Alors il y a des choses qui sont modifiables, d'autres non. Mais voilà, on essaye de prendre le pouls des joueurs pour savoir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plairait pas. Je donne un exemple, c'est qu'en fait, on avait un mode solo.
Ouais.
Et le mode solo était juste fallait battre son score.
D'accord.
De fois en fois. Et quelqu'un nous a fait la remarque que c'était quand même un peu pauvre. Et c'est vrai qu'on l'a écouté, et donc on s'est dit, très bien, on va faire ça. Comme on a dépassé un certain palier, on va bosser un peu plus d'heures dessus, et grâce aux contributions nombreuses, on va avoir un mode solo plus élaboré que ce qu'il n'était à l'origine.
D'accord, ok. Et quel conseil tu donnerais à des créateurs de jeux qui voudraient eux aussi se lancer sur Kickstarter ?
De vraiment bien peaufiner leur jeu. Alors c'est pas simple parce que forcément, alors ça dépend si par exemple c'est que un print and play, il a pas forcément besoin d'être très joli.
Oui.
Mais c'est vrai que soigner la qualité du graphisme, des illustrations, c'est quand même important de nos jours. Essayer d'en faire parler, de le faire tourner dans plusieurs festivals. D'avoir le jeu prêt, c'est-à-dire que quelque chose qui est pas du tout, et c'est normal, hein, pas aimé par les contributeurs, c'est que le projet tarde encore. Ça c'est évident.
Ouais.
Et aussi une chose importante, bien mesurer les coûts de son projet. C'est-à-dire que bien savoir quand on va dire OK, il me faut 1000, 2000, 10 000 euros, être certain de ça. Et pas essayer de, alors surtout pour le premier, de pas dire OK, il faut en vrai, je raconte n'importe quoi, mais 10 000 euros et dire bon, faut que ça passe, donc je vais faire 2 000.
D'accord.
Ça va passer, mais seulement il en manque quand même 8 000 euros derrière. Donc voilà.
Et puis faut aussi peut-être que le jeu sorte rapidement une fois qu'il est annoncé. Quand je dis rapidement, c'est on a un an, c'est ça à peu près en général, hein.
Ouais, ça dépend. Nous là, on a essayé un an, mais par exemple pour le précédent Mini Rogue qu'on a terminé, qui est en production là, la saison 2 de Mini Rogue, on avait mis un an et demi, et on va être un tout petit peu en retard, mais au lieu de 18 mois, on devrait être à 20 mois.
D'accord.
Mais parce qu'il y a beaucoup de produits différents, parce qu'il y a le jeu de base, il y a plusieurs extensions, il y a un tapis, Mais oui, c'est vrai que. Bon, au-delà, en plus, faut imaginer quand même que les gens mettent leur argent et se projeter un an et demi, 2 ans ou plus, c'est compliqué quand même.
Ah oui. Ah ouais, c'est sûr. Par rapport à un jeu comme tu as sorti, c'était Diluvium, c'était l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Il n'était pas passé, lui, sur Kickstarter ?
Non, il n'était pas passé sur Kickstarter, en effet. Non, on l'avait sorti directement en boutique. Et on est en train de réfléchir à une extension.
D'accord.
Et cette extension-là, par contre, sortirait peut-être sous Kickstarter. Bon, c'est...
D'accord.
Et pour l'instant, on en est encore un peu loin, mais voilà.
Et au niveau... T'es content du succès de Diluvium ?
Oui, ça, on l'a réimprimé en français.
D'accord,
donc, c'est déjà pas mal.
C'est plutôt bon signe, effectivement.
Donc, après, là, les ventes ont baissé,
ouais.
mais quand même, oui, sur parce qu'on l'a sorti en septembre-octobre de l'année dernière, donc en, on va dire, presque 10 mois, on a le jeu a bien marché, ouais.
Alors, j'ai des personnes qui ont vu que tu étais aujourd'hui dans C'est Ludique et qui me posent des questions sur l'actualité de Nuts, et notamment des nouvelles d'Inflexible en localisation.
Nos prochaines sorties. Nos prochaines sorties, c'est le 20 juin, donc dans vraiment...
Ah oui, c'est bientôt.
Un jeu qui s'appelle Bataille de Versailles.
D'accord.
Alors, qui n'est pas une vraie bataille. C'est en fait un événement qui a eu lieu au château de Versailles en 1973.
Ouais.
Et en fait, c'est deux défilés. Un défilé des plus grands couturiers français, comme Pierre Cardin et Saint Laurent,
ouais.
Contre un défilé des meilleurs stylistes américains.
D'accord.
Et donc, ça paraît étrange comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qui a bouleversé le monde de la mode.
Ouais.
Parce qu'en fait, la haute couture française s'est faite un peu renversée par le prêt-à-porter américain. Avec des robes beaucoup plus légères, plus colorées, tout était plus dynamique. Et donc, tout ce qui est prêt à porter maintenant doit beaucoup à cet événement-là, qui a renversé un peu l'hégémonie française, avec de la laine un peu lourde, un peu terne.
D'accord.
Et avec, Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce que je vous avoue, c'est pas forcément mon thème favori. C'est le jeu est vraiment très très bien. La thématique est vraiment reliée au système de jeu de manière parfaite. On voit le défilé passer de tour en tour. On peut donner de l'argent pour rénover Versailles. Voilà, c'est vraiment un excellent jeu.
D'accord.
La sortie d'après.
On est sur quel type de mécanique là ? Tu parlais de bataille.
Justement, c'est pas simple parce qu'c'est une myriade de choix.
D'accord. Ok.
C'est-à-dire. En fait, on va faire des collections de robes,
ouais.
Mais par exemple, le français peut gagner automatiquement en donnant de l'argent au château de Versailles.
D'accord.
Et petit à petit, il peut gagner comme ça. Mais il y a aussi plein de personnalités. Il va y avoir Grace Kelly, Jane Birkin, Liza Minnelli,
okay.
Plein de monde. Et si l'Américain réussit à en avoir 7 de son côté,
ouais.
Il gagne aussi automatiquement.
Ok. Ah oui, donc il y a un duel, quoi.
Oui, c'est deux camps asymétriques. Historiquement, les Français ont fait un défilé de 2h30,
ouais.
Alors que les Américains en ont fait que 45 minutes.
D'accord, ok.
Mais par contre, c'était beaucoup plus dynamique. Et c'est pour ça que ça marchait pour eux. Donc, en termes de mécanique, oui, il y a un peu de collection.
Ouais.
Il y a aussi un peu de majorité parce qu'on peut il y a 9 tuiles de défilé et on peut les faire basculer plus ou moins vers notre camp. Mais il y a aussi des objectifs à long terme, comme les personnalités ou la rénovation du château de Versailles.
Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça sort le 20 juin, donc dans une semaine.
Oui, tout à fait. Ouais. Et la sortie d'après, c'est Inflexible Bataille d'Angleterre.
D'accord.
Qui sort le 25 juillet.
Ok.
Donc là, c'est le troisième volume que nous, on sort après Normandie et Afrique du Nord. Et là, par contre, alors les mécaniques sont similaires aux autres, mais ce sont par contre des batailles d'avions. Et je suis très impressionné par les auteurs du jeu parce qu'ils ont fait, ils ont repris les mêmes mécaniques qu'un jeu terrestre et ils ont réussi à faire des batailles aériennes. Qui sont vraiment très, 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 très bien faites.
D'accord. Donc ça, c'est le 25 juillet.
C'est ça.
Et puis, c'est important aussi d'en parler, parce que tu es notre premier mécène. Tu as aussi donc choisi de soutenir les radios associatives en tant que mécène. Pourquoi avoir décidé de t'engager dans cette voie et d'aider donc Millennium et donc Céludica?
Parce que ça me semblait important de soutenir déjà des associations,
ouais.
Ensuite des associations locales, et puis des associations, parce qu'on est aussi breton, même si on et est
oui.
basé près de Quimper.
Ouais.
Et aussi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions au global qui parlent de l'actualité ludique d'une manière générale. Et puis ensuite, pour préserver l'indépendance et la survie de ce genre d'associations qui pour moi font partie du paysage social nécessaire à une bonne vie dans le pays.
Ouais, parce que les radios associatives aujourd'hui jouent un rôle quand même clé dans la diversité et la pluralité de l'information. Hein.
Oui,
et en tant que mécène, finalement, tu leur donnes aussi une visibilité, un soutien précieux. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec les collectivités. Qu'est-ce qui, selon toi, les rend importantes pour la société et puis la culture locale aussi?
Je pense que déjà, je sais pas, enfin, juste avant, j'entendais la musique que vous passiez.
Ouais.
Voilà, c'est le genre de musique qu'on n'entendra pas forcément sur toutes les radios. Vous allez passer des choses un petit peu différentes. Vous allez parler d'actualités différentes qu'on va pas entendre ailleurs.
Oui, ben ça c'est, ouais, c'est sûr.
Des choses qui sont plus proches des gens aussi. Voilà. Non, moi ça me semble tout à fait important de soutenir tout ce milieu-là. Et toutes les associations, là, c'est une association de radio, mais voilà, ça pourrait être une autre association, c'est tout aussi important. Et je suis bien content que vous soyez là.
Eh ben, un grand merci, Florent, pour ton temps, pour ton engagement aussi à la fois, hein, pour le monde du jeu de société et pour les radios associatives. C'est inspirant de voir des entrepreneurs qui utilisent leur succès pour soutenir des causes aussi importantes. Je te souhaite en tout cas tout le meilleur, Florent, pour la suite. Et t'es toujours le bienvenu, hein, si tu passes dans le coin. On est du côté de Trégastel maintenant. Hein.
Merci beaucoup. À vrai, Charles.
Merci, Florent. Salut.